Nous reprenons notre sujet, la vie dans la dépendance de Dieu. Nous allons voir maintenant que vivre hors de la dépendance de Dieu est une grave et profonde erreur. Vivre hors de la dépendance de Dieu, c'est vivre sans environnement divin, c'est-à-dire sans la lumière de la vie. Et c'est ce qui arrive chez le chrétien non suffisamment averti et qui s'efforce de se procurer la force spirituelle dont il a besoin par un resserrement de sa volonté ou par un effort qu'il produit lui-même. Alors ce chrétien s'épuise sans succès la victoire qu'il voudrait sincèrement remporter sur tout ce qui lui pèse encore. Cette victoire lui échappe sans cesse, son âme reste languissante. Voilà, chers amis, un drame dans l'Église. Il y a malheureusement des chrétiens qui constamment reconnaissent qu'ils n'ont pas la victoire et qu'ils sont continuellement harcelés, ils sont continuellement, disons, vaincus. Et cela vient de ce qu'ils n'ont pas été suffisamment instruits, ils n'ont pas été suffisamment guidés dans l'Église, ils ne sont donc pas, comme je disais, avertis, et ils s'efforcent de trouver en eux-mêmes la force victorieuse, la puissance victorieuse qui n'y est pas. Alors ils vont chercher en somme en eux-mêmes quelque chose qui n'y est pas, au lieu d'aller chercher dans le Seigneur. Alors, souvent, on le leur dit, mais il faudrait, dans l'Église, il y a cela, il faut éduquer, en somme, éduquer les chrétiens dans ce sens-là. Le chrétien qui se trouve dans cette situation, cherchant en lui-même, faisant des efforts, ne pense, en somme, qu'à chercher au-dedans de lui-même ce qui n'y est pas, car cette force victorieuse, cette force qui triomphe de toutes les difficultés, dans toutes les luttes, cette force est en Christ et ne peut venir que de l'extérieur, que de Christ. Elle est, cette force, dans la lumière que Christ rayonne. Beaucoup de chrétiens, certains chrétiens se lamentent de la faiblesse qu'ils sentent en eux, et ils font là, évidemment, un constat qui est réel. Effectivement, ils sont constamment dans la faiblesse. Ils cèdent à toutes sortes de choses alors qu'ils voudraient pouvoir résister, par exemple. Ils sont vraiment dans la faiblesse. Il le constate. Mais ce n'est pas cette constatation qui apportera le remède de la faiblesse. Devant cette faiblesse, il faut présenter une force, et une force extérieure qui nous soit destinée. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 12:10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et au verset 9, nous aurions pu lire le verset 9, il m'a été dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, voilà l'apôtre qui nous montre qu'il ne craint pas cette faiblesse. On peut en faire le constat, bien sûr, mais il ne la craint pas, cette faiblesse. C'est une capacité à vaincre, parce que il ne peut pas l'avoir en lui, ne peut pas la trouver en lui. C'est une puissance, la puissance de Christ, qui repose sur lui, c'est-à-dire qui vient en lui. C'est cette puissance qui lui permet de tout dominer. Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Vous voyez l'accumulation de termes ici. Et verset 33 de ce même psaume, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Dieu qui m'entoure de force et qui me ceint de force, l'expression veut dire qui me met une ceinture de laquelle j'obtiens la force. Il me ceint de force, il me met une ceinture qui me permet de déployer la force. Le prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 31. 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Là aussi, c'est dans un langage imagé, mais nous comprenons très bien ce que cela veut dire. On aurait pu lire même au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce sont des versets à garder bien précieusement, cela, voyez-vous. Ils sont pour nous non seulement un encouragement, mais ils sont une lumière pour nous, un enseignement absolument indispensable qu'il faut que nous méditions, que nous assimilions. C'est un enseignement à assimiler pour le mettre en pratique. Voilà des choses qu'il faut mettre en pratique. Dans le même prophète, chapitre 45, verset 24, « En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. » En l'Éternel seul. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, particulièrement dans Ésaïe, Yahvé, l'Éternel, désigne le Messie. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà une recommandation dans le même ordre d'idées et qui est formelle. Fortifiez-vous, le Seigneur nous dit fortifiez-vous. Alors ça, il faut l'apprendre à se fortifier. C'est très beau de le lire, mais il faut vraiment entrer dans la réalité qui nous est ainsi présentée. Il faut entrer dans cette réalité, effectivement. Eh bien, pour cela, il faut apprendre, petit à petit, par le moyen de la foi, la confiance en Dieu. C'est ça qui manque souvent. Nous ne savons pas nous confier en Dieu. On saurait à la rigueur se confier en quelqu'un que l'on voit, en un autre être humain. Mais se confier en Dieu qu'on ne voit pas, il faut l'apprendre. C'est quelque chose que la chair ne sait pas faire, et c'est quelque chose que l'esprit peut faire très bien, mais il faut l'apprendre petit à petit, expérience par expérience, jour après jour. Il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient que, par un coup de baguette magique, on fasse disparaître tout ce qui les travaille, tout ce qui fait leur état de faiblesse. Mais ce n'est pas possible. On peut leur donner le conseil, quand vous venez, par exemple, à la prière, et vous pensez que il va y avoir un changement radical en vous, alors que jusque-là vous étiez faible, abattu, incapable de surmonter la moindre petite difficulté, morale ou autre, spirituelle notamment, et que, alors, venant à la prière, tout à coup, vous allez sortir de là fort, vainqueur. Mais Dieu ne peut pas vouloir cette chose-là. Dieu peut vouloir que, par la prière, en effet, vous soyez éclairé, vous soyez guidé, vous soyez aidé. Mais il faut que vous fassiez vous-même l'expérience qui vous conduira à cette science, à cette possibilité de recueillir, de puiser en Christ la force victorieuse nécessaire. Cela s'apprend jour après jour, plus ou moins vite. Ça dépend des personnes, ça dépend de la mesure de foi aussi. Mais demandez à Dieu une grande mesure de foi. Mais seulement, si vous ne vous y appliquez pas, jour après jour, et comme je vous disais, expérience par expérience, circonstance, chaque fois que vous trouvez dans un état de dépression, en somme spirituelle ou morale, et dans un état d'affaiblissement, surtout vis-à-vis des convoitises, des tentations, vis-à-vis de toutes sortes de décisions que vous devriez prendre et vous n'en sentez pas la force, eh bien, chaque fois, il faut que là, vous apportiez à Dieu votre confiance, naturellement vous avez la ressource de la prière, vous apportez à Dieu votre confiance, et là, il faut absolument que vous remportiez une victoire, et puis demain, il y en aura une autre à remporter, et après-demain, il y en aura encore une. Et c'est de victoire en victoire, d'expérience en expérience, que vous arriverez à savoir vous confier en l'Éternel, vous lier vraiment à Christ et tirer de Christ, obtenir de Christ cette force qui vous est indispensable. Dans le psaume 27, mais n'y allez pas parce que je vais vous citer la version Darby qui est préférable à la version seconde, le psaume 27, 14 dit ceci: attends-toi, attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme, oui, attends-toi à l'Éternel. Ça s'apprend. Ça se lit, mais ce n'est pas suffisant de le lire. Il faut le lire, le retenir et dire, je désire cela, c'est pour moi que c'est écrit, ça. Il faut absolument que je sache comment pratiquement je vais m'attendre à l'Éternel. Vous vous placez dans la prière, vous y revenez avec persévérance, la patience, jour après jour, et vous arriverez à savoir, vous confier à l'Éternel, vous attendre à lui, et par conséquent, votre cœur y trouvera fermeté. Dans toute situation de faiblesse, où nous sentons notre impuissance devant la force du péché, devant peut-être le désarroi de notre cœur, eh bien, c'est là qu'il faut pouvoir s'attendre à l'Éternel, s'abandonner à Jésus, à Dieu. Ce sont des circonstances que Dieu ne peut pas manquer, même, je dirais, de faire venir à nous. Et nous avons besoin de ces circonstances. Si tout allait très bien, si il n'y avait absolument rien à faire et que, on pourrait presque dire, automatiquement, la force nous viendrait, nous la ressentirions, eh bien, à ce moment-là, nous ne ferions aucun progrès. Nous ne ferions pas de progrès. Et nous resterions tels que nous sommes, en réalité, dans un état de faiblesse, et le Seigneur donne sa force, il veut la donner, mais il veut que nous fassions, nous, l'expérience de la de l'approche de Dieu pour saisir par la foi cette force en lui. Il y a même des occasions où notre foi elle-même nous paraît faible et en somme, pour ainsi dire, nous trahit. Il y a des moments où on voudrait trouver vite sa foi et puis on sent qu'on en est presque vide de foi, n'est-ce pas? Et la foi nous trahit. Au moment où on a besoin vraiment d'elle, à certains moments, cette foi nous trahit. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas appris à nous attendre à l'Éternel, à nous confier en lui. Nous ne l'avons pas appris. C'est ça qui nous fait défaut, chers amis. C'est ça qui manque. C'est de cela que l'on n'a pas suffisamment parlé, peut-être, dans l'Église. C'est magnifique, n'est-ce pas, ces réunions où on élève vers Dieu des chants de joie, des cris de joie, comme dit l'Écriture, des Alléluia, des réunions où l'on parle beaucoup de la puissance de Dieu, des guérisons, des miracles de toutes sortes, des transformations, tout ça. Nous aimons voir la puissance de Dieu à l'œuvre, en action. Mais cette puissance, elle a besoin de s'insinuer dans les vies tout au fil des jours, tout au long des jours. Elle a besoin de s'insinuer en nous et de venir régler nos difficultés, nos problèmes, pour que nous restions vraiment chrétiens, pour que nous restions vraiment ceux qui vivent selon l'Évangile. La force, nous le chantons, la force vient de Christ, mais la force a besoin de s'insinuer. C'est pas toujours la force éclatante, la puissance éclatante de Dieu qu'il faut exalter. C'est cette puissance à usage journalier, cette puissance dont nous avons besoin dans notre vie, dans notre existence. Est-ce que vous voulez voir des chrétiens qui sont remplis d'enthousiasme et qui sont très exaltés au cours d'une réunion où l'on porte très haut les manifestations éclatantes de la puissance de Dieu. Puis alors après, ces mêmes chrétiens, vous les retrouvez dans leur maison, dans leur appartement, les larmes aux yeux ou faibles, ne sachant que faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est haut et c'est bas, là. Enfin, c'est pas ça. Nous parlions ce matin avec des frères de ces réunions occasionnelles que certains font dans des grandes rencontres. Alors, à ce moment-là, c'est magnifique, n'est-ce pas? On ne parle que de la puissance de Dieu, la puissance, naturellement, visible, se manifestant avec grand éclat. Alors tout le monde est dans l'enthousiasme, on chante, on délie sa bourse à ce moment-là aussi, n'est-ce pas? Tout va bien, tout est magnifique, tout est grand, tout est superbe, chers amis. Oui, et puis alors quand on est chez soi, pendant des jours qui se succèdent, alors on végète spirituellement, on se traîne spirituellement. Eh bien ça ne va pas. La vie chrétienne n'est pas cela. La vie chrétienne n'est pas faite de ces moments de grand enthousiasme et d'exaltation au milieu de toute une chaîne de jours où la foi se traîne, de jours où le cœur est rempli de tristesse et de lamentation. Alors c'est très beau aussi de dire à un chrétien d'être joyeux, d'être heureux. Mais encore est-il qu'il faut qu'il le puisse. On dit quelquefois cette parole que je n'aime pas, je vous dirais. Un chrétien triste est un triste chrétien. C'est pas vrai, ça, chers amis. Je m'inscris en faux contre ça. Un chrétien triste, il peut être triste quand il est faible. Et à certains moments, il faudra peut-être qu'il soit triste, d'ailleurs, comme nous le dit l'apôtre Jacques. Un chrétien triste n'est pas toujours un triste chrétien, mais c'est un chrétien qui peut-être est en lutte, qui combat. Ce qu'il faut, c'est que nous luttions, nous combattions, nous apprenions à donner au Seigneur notre confiance et à tirer, à obtenir de lui la force. Et je vous dis, je répète, ça s'apprend de jour en jour. Et de circonstance en circonstance. Le secours ne peut pas manquer de venir vers quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui n'abandonne pas, qui use de patience, de persévérance, de prière. Mais ce qu'il faut, c'est cesser de faire obstacle au secours de Dieu par des paroles insensées ou par des paroles de doute. Il arrive souvent qu'un chrétien qui se voit dans une situation de faiblesse est complètement découragé, et puis, alors là, il ne fait que parler de son malheureux état, de son incapacité, et il finit par glorifier l'ennemi, glorifier le diable, hein. Au lieu de se faire humble, parce que la lamentation, nous l'avons dit hier, n'est pas toujours l'égale de l'humiliation. On peut quelquefois se lamenter, mais se lamenter surtout sur soi-même. Et ce n'est pas ça l'état d'humilité. Eh bien, ce qu'il faut, c'est entrer dans un véritable état d'humilité. Disons donc non à ce désordre intérieur de nos pensées, non aux apparences sous lesquelles nous voyons notre triste situation. Elle est triste, c'est peut-être vrai, mais ne restons pas sur ce constat et disons non à ces apparences. Notre grand tort en de tels moments, c'est de prendre en somme pour vrai ce que nous éprouvons, et de douter de la fidélité de Dieu, tout simplement parce que notre cœur a cédé au découragement et que le découragement, lui, il détruit la foi. À ce moment, notre cœur ne voit en lui-même que faiblesse et impuissance. Eh bien, dans la faiblesse, c'est là que la force de Dieu veut agir. Et dans pas mal de circonstances, on a pu constater, et vous pourrez peut-être constater, vous l'avez déjà fait, que dans, je dis, certaines circonstances, le Seigneur attend l'ultime moment, c'est-à-dire le moment où la chose est la plus grave, hein, l'ultime moment pour intervenir. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi dès que nous sommes touchés par quelque chose qui nous éprouve, pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas au début, tout de suite? Ne pas nous laisser aller jusqu'au fond, et toucher le fond, eh bien, c'est parce que il y a là une épreuve que le Seigneur juge nécessaire. Et il nous laisse aux prises avec cette épreuve, pour que nous apprenions la confiance, pour que nous apprenions à crier à lui, à nous mettre en prière au lieu de geindre, au lieu de nous lamenter sur nous-mêmes, nous mettre dans la prière, et à ce moment-là, le Seigneur, alors, intervient. Mais quand nous touchons, évidemment, le point le plus aigu de la crise, qui s'est abattu sur nous, n'est-ce pas? Nous arrivons alors au moment. Alors, le Seigneur, évidemment, vient à notre secours, comme il est venu au secours de Pierre, et qui commençait à s'enfoncer dans l'eau, et il ne l'a pas laissé se noyer, bien sûr. Hein? Alors, il l'a retiré de l'eau. Mais ce qu'il faudrait, c'est que nous apprenions à marcher sur l'eau, en regardant au Seigneur, en maintenant notre confiance, mais nous regardons au contraire les nuages, les orages, le vent, les vagues, nous regardons tout ça, hein, nous disons, oh, il y a du danger, un grand danger, alors nous sommes sur les apparences, et puis comme Pierre, nous nous enfonçons dans l'eau. Hein? Voilà. Dieu, dit l'Écriture, est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est là qu'il faut bien savoir que nous n'avons pas à compter sur nous-mêmes. En revenant toujours à ça, nous n'avons pas à compter sur nous-mêmes, à rechercher quelque chose en nous-mêmes. En nous, il n'y a que la faiblesse de la chair, il n'y a pas autre chose. Et puis d'un autre côté, comme nous le disons et voulons que la pensée en subsiste au cours de cette étude, nous sommes établis, créés, comme des créatures, comme des organismes, organismes qui comprennent esprit, âme et corps, nous sommes des organismes magnifiques, très bien établis pour vivre, mais nous n'avons pas la puissance de la vie en nous. La puissance vient de l'extérieur. Alors, nous n'avons en nous que faiblesse, par conséquent, que impossibilité de vivre sur nous-mêmes, replié sur nous-mêmes, et la fermeté, la victoire, viennent de l'esprit qui lui-même, de l'esprit de l'homme qui lui-même reçoit la force de l'esprit de Dieu. La foi seule, toute l'Écriture nous dit, nous répète constamment par la foi, ou dans l'Ancien Testament, espère en Dieu, attends-toi à Dieu, confie-toi en Dieu, tout ça c'est toujours la foi. La foi seule peut aller en quête d'une force extérieure à l'homme et la faire pénétrer dans l'être intérieur. Et cette foi, elle a ses bases dans la parole de Dieu, elle est assurée cette foi, elle est assurée que Dieu est riche en bonté et en puissance et que, selon son amour, il veut nous enrichir et nous fortifier par Jésus-Christ et à cause de son œuvre. Recherchons donc le contact avec Dieu en Jésus-Christ afin que la puissance victorieuse du Seigneur passe de lui à nous et fasse alors de nous les enfants forts d'une force divine. Dimanche après-midi, nous avons vu que nous avons parlé sur le texte que de Jean, la première épître de Jean, et la victoire sur le monde, c'est notre foi. La victoire sur le monde, sur tout ce qu'est le monde, c'est notre foi. Notre foi, elle seule, peut puiser dans le Seigneur Jésus. En somme, Paul, lui, exprime ceci. Tant mieux si je suis faible, et si je le sais, et si je le sais, si je l'admets, tant mieux, car je peux m'attendre à Dieu. Ce que je ne ferais pas si j'étais fort, si je me sentais fort. Si je me sentais fort, je ne m'attendrais sûrement pas à Dieu. Et Dieu le sait bien, ça. Dieu le sait très bien. L'homme malade et débile qui est, par exemple, dans un sanatorium, eh bien, cet homme, on le met au soleil. Il y a dans ces établissements de traitement des grands balcons exposés vers le sud. Et alors là, on le met au soleil, dont le rayonnement est fortifiant. Eh bien, nous-mêmes, hommes débiles, sans Dieu, exposons-nous au soleil de justice, à la lumière de Christ. Attendons-nous un apport magnifique de force et de courage. Notre faiblesse humaine n'a pas de solution en nous. Elle n'a pas de solution. Elle est incurable. Il lui faut le constant rayonnement de l'amour du Seigneur. Et puis, il y a un rôle aussi qui est accordé à la foi. La Bible nous montre que la foi a aussi un rôle, un autre rôle, à jouer, et cet autre rôle, nous allons le voir dans le psaume 42. Pourquoi t'abattu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. En somme, ici vous voyez le psalmiste qui secoue un peu son âme. Pourquoi t'abattu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Allons, ça ne va pas. La foi, n'est-ce pas? Attention, la foi est dans le cœur, et cette âme qui a tendance, elle, à trop tenir compte des apparences d'une réalité de fait, d'une réalité momentanée de fait, mais ne tient pas compte de la grande réalité. Il n'y a que la foi qui va chercher la grande réalité en Christ. Et la réalité en Christ, c'est que nous recevions la force et la victoire. Alors, la foi, elle a pour ce rôle, elle a ce rôle aussi de secouer l'âme. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Ça ne va pas, ça. Ça ne peut pas durer, ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Eh bien, tu n'as qu'à croire, espère en Dieu, car je le louerai encore. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Enfin, as-tu oublié tout cela? Allons, mon âme bénit l'Éternel, ne reste pas inactive. Vous voyez, n'est-ce pas? Il faut à certains moments que la foi nous secoue. La foi est là pour cela. Et puis, 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les orgueilleux. Non, les simples. Les simples. Oh, comme j'aime ça, moi. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu l'as oublié, mon âme, quand tu es là, languissante, abattue. Tu as oublié que l'Éternel t'a fait du bien. Alors retourne à ton repos, à ce qui faisait ta tranquillité, ta joie précédente. Retourne à cela. Et pour cela, eh bien, attends-toi à l'Éternel. Et quand Dieu a agi, alors l'on peut dire, avec le psalmiste, psaume 131, verset 2, « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Voyez-vous, quand la foi fait son office et elle a, si nécessaire, secoué un peu l'âme qui s'endort ou qui se laisse aller à la désespérance, eh bien, lorsqu'on a fait cela, j'ai l'âme calme et tranquille. L'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré. Je sais que je suis nourri, je sais que je suis soutenu, secouru. J'ai l'âme calme et tranquille. Et c'est dans cette situation-là que nous avons à vivre. Mais vous voyez comme il faut que nous nous attendions à l'Éternel et par conséquent que nous vivions dans la dépendance de Dieu. En somme, lorsque nous gémissons, lorsque nous nous sentons faibles et que nous ne savons pas aller chercher la force en Jésus-Christ, eh bien, nous vivons, en somme, sans environnement spirituel, sans la lumière, sans cet apport. Nous vivons cela et nous prétendons, en quelque sorte, exister par nous-mêmes. Oui, l'erreur tragique, c'est d'exister par soi-même, d'arriver à ça. À cette situation, nous existons par nous-mêmes, comme si, physiquement, nous voulions vivre par nous-mêmes, sans rien manger, sans rien respirer, sans rien boire. Nous vivons par, nous existons par nous-mêmes. C'est la pire des choses et c'est le grand écueil dans la vie spirituelle. Vouloir vivre sans environnement, c'est-à-dire sans l'apport constant de la lumière et de la puissance, c'est prétendre respirer sans atmosphère ou boire sans source d'eau. C'est prétendre subsister sans nourriture. C'est retourner, en somme, à l'indépendance fatale qui a été fatale à l'homme et qui a eu son origine à la chute en Éden. Vivre, retourner à l'indépendance, retourner à l'autonomie coupable. C'est pour ça que Dieu n'est pas content de ces chrétiens-là, qui gisent dans la faiblesse, et qui pataugent, et qui ne savent pas, par la foi, saisir la force que Dieu leur tend. Ils retournent à l'autonomie. Ils vivent repliés sur eux-mêmes, ce qui est impossible. Alors, on peut se demander pourquoi le chrétien prend une telle attitude alors qu'il en souffre, et alors que la Bible est là, et qu'il y a certainement, la Bible leur parle à eux, et puis il y a certainement des bonnes âmes qui, à côté, répète aussi tout ce que dit la Bible, qu'il faut avoir la foi et s'attendre à Dieu. Alors pourquoi le chrétien? Eh bien, je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il ne sait pas vivre en Christ, de Christ ou par Christ. Il ne sait pas, il ne l'a pas appris. Et ça, c'est une chose, chers amis, qu'il faudrait apprendre dans l'Église. Apprendre par des expériences et aider, bien sûr, chacun. Le ministère pastoral est bien donné par le Seigneur pour cela. Il ne l'a pas appris ou il ne l'a pas expérimenté, et alors l'homme naturel reprend son mode de vie à lui. L'homme naturel revient, et alors on arrive à reprendre la vie qui est en somme établie sur le petit raisonnement de l'homme, sur les constatations qu'il fait des apparences dans lesquelles sa vie se meut, hein, apparence sur son physique, apparence sur son moral, apparence sur son entourage. Il ne voit que des apparences et il marche d'après ses apparences, il marche à vue en somme au lieu de marcher par la foi. Voilà ce qui se passe. Et ce chrétien-là, je ne dis pas qu'il n'est pas chrétien, c'est un chrétien, mais un chrétien qui se traîne, et c'est ce chrétien-là, ou plutôt à ces chrétiens-là, que parle l'Épître aux Hébreux comme ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il n'a pas l'expérience, il n'est pas venu dans l'expérience de la parole de justice. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'expérience de la parole de justice. Faire entrer toute la parole de Dieu en expérience, dans notre expérience personnelle. L'homme naturel, lui, il profite de toute occasion. Et il ramène son mode de vie à lui. Il revient, n'est-ce pas, avec ses raisonnements. Avec ses raisonnements, remarquez bien, quand nous sommes enclins à raisonner, oui, mais il y a ceci, oui, mais je ne peux pas faire cela, oui, mais on n'arrivera jamais à ça, etc., etc. Ça y est, c'est l'homme naturel qui est revenu. Il est là. Bon. Alors, il reprend tous ces petits composants, il reprend son petit schéma, n'est-ce pas, toujours le même. Il regarde les apparences. Il faut que le chrétien comprenne qu'il a besoin de manger et de boire en son être spirituel, qu'il a besoin de saisir en Christ la force victorieuse indispensable. Et relisons une fois de plus, cela ne sera jamais de trop, Jean chapitre 6 et verset 55, chapitre 6, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui me mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous avez bien entendu, il vivra pas tout seul, il vivra par moi. Il vivra par moi. Notre être tout entier, esprit, âme et corps, n'est pas une machine ou un système à produire de l'énergie, mais un système à en consommer. Esprit, âme et corps. Notre corps a besoin lui-même d'un apport d'énergie, il a besoin en somme de carburant, et il a besoin de comburant, l'oxygène, comme le charbon dont nous parlions l'autre jour. Il a besoin de cela. Et notre âme et notre esprit également. Notre esprit et notre âme se dépensent. Savez-vous qu'il y a une dépense? Vous savez bien que dans le physique, il y a une dépense. Quand on a beaucoup travaillé dans la journée, eh bien, on arrive à la fin de la journée, même sans trop travailler. Ici, nous ne travaillons pas beaucoup quand même, n'est-ce pas? Vous ne travaillez pas beaucoup, vous êtes un peu en vacances, vous êtes en vacances, même tout à fait. Il arrive à la fin de la journée, vous êtes quand même fatigué. Vous sentez que vous avez fait une dépense. Nous avons dépensé et on a besoin d'un renouvellement d'énergie spirituelle. Il n'y a qu'à vous voir le matin au petit déjeuner, on voit très bien que vous avez besoin d'un renouvellement, n'est-ce pas? Ça se voit bien. Eh bien, il en est ainsi de notre âme et de notre esprit, ils ont besoin d'un renouvellement d'énergie. Voyons la dépense. La dépense dans Luc chapitre 6, verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, à toucher Jésus, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Voyez-vous que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il dépensait. Et comme il guérissait beaucoup de monde, il en dépensait de la force. Hein? Et cette force, quelle était-elle? Pas physique, elle était spirituelle. Quand cette femme vient le toucher son vêtement par derrière, cette femme qui était affectée d'une perte de sang, eh bien, elle se trouve guérie, et le Seigneur dit, qui m'a touché? J'ai senti qu'une force était sortie de moi, une force spirituelle. Voyez-vous, il y a une dépense, toujours dans Luc chapitre 8 et verset 46. Eh bien, là, nous y sommes précisément à ce que je disais, mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Alors, s'il y a une dépense, ça, c'était une force qui sortait de l'humanité de Jésus, n'est-ce pas? La divinité n'opérait qu'à travers l'humanité de Jésus, et une force sortait de lui. Eh bien, il en est ainsi de nous. Et il y a un renouvellement, par conséquent, un renouvellement nécessaire. Et dans les Colossiens, chapitre 3, « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alors, renouvelle dans la connaissance. Apparemment, ça semble vouloir dire qu'il se renouvelle dans la science, dans la connaissance de la doctrine ou de la parole. Enfin, et ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans le lien avec Jésus-Christ. Car la connaissance, c'est la relation avec Jésus-Christ. Il se renouvelle dans la relation avec Jésus-Christ, selon l'image de celui qui l'a créé. Mais nous ne sommes pas, avons-nous déjà dit, des créateurs, mais des créatures. Et ça, c'est acclamé parce que l'homme aujourd'hui veut se voir, lui, créateur et non pas créature. Il ne veut pas se voir créature. Mais nous, chrétiens, il faut bien que nous sachions que nous sommes des créatures, si bien que la communion est une impérieuse nécessité. C'est dans la communion avec le Père et avec le Fils que le transfert des forces utiles s'effectue vers nous. Dans la communion, s'il n'y a pas la communion, il n'y a pas le branchement, si je puis dire, il faut, c'est dans cette communion que les forces vont nous affluer vers nous. La communion est donc une nécessité selon la loi d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et elle est aussi une nécessité scientifique, disons le mot, une nécessité absolument objective. Alors, chers amis, il y a un grand problème là qui surgit, et ce problème est un problème qu'il faudrait que, je ne sais pas moi, tout le monde évangélique reconsidère. Il faudrait reconsidérer ce problème. Le problème de la communion, c'est-à-dire d'une relation vivante, effective avec le Christ. Une « demeurez en moi et je demeurerai en vous ». On en parle certes, mais il faudrait arriver à une réelle mise en pratique de cela. Et le problème auquel je fais allusion est le suivant. La communion est quelque chose d'absolument vital et indispensable. Voyez Jean 6 que nous avons lu tout à l'heure. « De même que le Père m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Hein? » Donc, le Seigneur Jésus reçoit du Père, lui, dans son humanité, la vie. Je ne dis pas dans sa divinité, il fait partie de Dieu. Enfin, il est de l'essence de Dieu. Bon. Mais dans son humanité, il reçoit la vie du Père, et la vie pleine et entière, la vie parfaite du Père. Et il est là, il n'est pas venu, lui, pour faire une expérience personnelle et pour vivre au milieu des hommes, parce que ça l'intéressait. Non pas, ça ne l'intéressait pas pour lui. Pas pour lui qu'il est venu, c'est pour nous. Et alors, il, de lui-même, étant donné alors à ce moment-là que l'expérience qu'il fait dans son humanité est prise en compte par la divinité qui est en lui, cette expérience, le fruit de cette expérience, il le donne aux autres hommes. Voilà ce qui se passe. Son humanité est un creuset. Et quand dans ce creuset, tout s'est élaboré, une vie nouvelle s'est élaborée, l'homme nouveau, une vie nouvelle s'est élaborée dans ce creuset qu'est l'humanité de Jésus. Alors, la divinité s'empare de ça, et la divinité qui est esprit communique cela. C'est pour ça que c'est l'Esprit qui prend ce qui est à Christ et qui nous le donne. La divinité, l'Esprit de Dieu communique cela. Donc, le grand problème, c'est la communion. Et là où le problème se complique, le problème que j'évoquais à l'instant se complique, c'est que l'on n'a jamais véritablement étudié quel était le rapport entre cette communion qui est vitale et le baptême ou la plénitude du Saint-Esprit. Mes amis, voilà un problème, un grand problème. Et dans nos assemblées, qui sont des assemblées de Pentecôte, nous sommes surtout orientés vers le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que nous mettons en avant. Alors, nous conseillons aux chrétiens vivement de rechercher, par la prière, par la foi, la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Bon, c'est très bien. Sans que nous ayons une idée du rapport qu'il y a entre ce baptême, cette plénitude du Saint-Esprit et la communion. Alors, les questions, toutes sortes de questions pourraient intervenir là. On pourrait se dire, mais la communion est-elle la plénitude du Saint-Esprit? Ou la plénitude du Saint-Esprit va-t-elle elle-même établir la communion pleinement? Est-ce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est tout à fait en communion avec le Seigneur? Est-ce que ce sont deux choses différentes? Ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une seule et même chose? Vous voyez le problème. En réalité, ce n'est pas une seule et même chose. De même que nous faisons le départ entre la conversion, la régénération et le baptême du Saint-Esprit, de même, une différence est à voir entre la communion avec le Seigneur Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Et chers amis, savez-vous pourquoi, surtout, le baptême du Saint-Esprit tarde chez beaucoup? C'est parce qu'il n'entre pas pleinement dans la communion d'abord. Et que le résultat de leur conversion, de leur repentance, de leur demi-tour, la métanoïa, le résultat de cette repentance ne les a pas vraiment amenés au plein cœur de la communion avec Christ. Et le baptême du Saint-Esprit se fait attendre. Se fait attendre. Et de cela, bien sûr, je connais une expérience. Je connais une expérience. Une expérience a été faite de cela. Des chrétiens qui cherchaient depuis assez longtemps le baptême du Saint-Esprit, on les a d'abord amenés à une communion. C'est qu'il n'a pas été si simple, ça n'a pas été si rapide non plus, mais une fois ces chrétiens arrivés, vraiment ceux qui sont arrivés à la communion, mes amis, ça n'a pas tardé. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Tombé, c'est l'expression, est tombé sur eux. Et alors là, vous savez, ils ont été vraiment remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, le problème que j'évoque là, de cette différence à voir entre la communion et la plénitude du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit soit deux choses et soit divisé. Quand il y a plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là dans la communion s'est faite et la plénitude du Saint-Esprit s'est réalisée. Elle s'est réalisée en vue du témoignage, mais non pas en vue de réaliser une vie chrétienne qui ne l'est pas par la communion. Et ça, vous voyez, et ce point-là est excessivement grave. Excessivement grave, chers amis. Alors, on arrive à ceci, c'est que l'on parle du baptême du Saint-Esprit, bien sûr, on le recherche, on a raison de le rechercher. Mais lorsque ce baptême du Saint-Esprit est survenu, et on en juge souvent par le parler en langue, mais le parler en langue qui quelquefois a été une petite chose, une toute petite chose, bien petite chose. Enfin bref, on voit que des personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, et puis alors après, on dit c'est fini, c'est clos, n'a pu s'occuper de rien, c'est fait, il y a eu le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, tout est réglé. C'est réglé, l'expérience est complète. Bon, maintenant, suivons-le, laissons-nous aller au fil des temps. Et chers amis, alors là, c'est là que ça ne va plus du tout. D'abord, la plénitude du Saint-Esprit, vous savez, elle s'affaiblit elle-même, et le livre des Actes nous le montre. au chapitre 4, les apôtres prient pour être remplis du Saint-Esprit, ils l'avaient été au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Et ils prient à nouveau pour être remplis. Parce que ça a baissé, parce que c'est, ils ont dépensé, et il faut qu'ils reviennent à cette plénitude du Saint-Esprit pour leur œuvre extérieure, pour leur témoignage. Vous voyez, il y a de gros problèmes qui sont là posés. De toute manière, disons ceci, pour conclure ce matin, qu'il faut, avant toute chose, que nous soyons établis dans une vie chrétienne authentique. Et authentique, c'est-à-dire telle que Dieu la veut, telle que Dieu lui-même en a fixé la forme, le dessin, les bases. Il faut que nous soyons établis sur vraiment le vrai fondement de Dieu, fondement de Christ et des apôtres, dans une vie chrétienne authentique. Et avec, naturellement, à la clé, la communion, la relation vivante avec le Christ. Et puis à ce moment-là, le baptême du Saint-Esprit ne fait aucune question, aucun problème, absolument aucun problème. Seulement, alors après, j'ajouterai à conservez-le. Alors, conservez la communion et conservez la plénitude du Saint-Esprit. Il faut conserver les deux. Et le principe, en somme, qui se dégage de tout ça, c'est que ce que dit le Seigneur, sans moi, hors de moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien être, rien du tout que ce que vous étiez auparavant, les êtres de chair. Et vous ne pouvez être quelque chose que si vous demeurez en moi, et que par conséquent, moi, en réponse, je demeure en vous. Et je vous apporte constamment les puissances d'une vie impérissable, les puissances du siècle à venir. Je les apporte constamment en vous et je maintiens en vous cette plénitude du Saint-Esprit pour que vous soyez vraiment non pas des orateurs, non pas des avocats, mais d'humbles témoins et des témoins puissants. Amen.